La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, comme tous les vendredis, ce sera la libre antenne, l'occasion pour vous tous de réagir à l'actualité de votre choix, de revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué tout au long de la semaine dans l'actualité internationale, française, africaine. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, évidemment, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On vous attend ici au standard 33 9 693 693 70. Nous sommes devant nos écrans, donc nous lisons également les commentaires que vous postez sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité ou encore sur le compte WhatsApp. Quentin Ferral est dessus en ce moment, donc il les consulte au fur et à mesure qu'ils arrivent. Le numéro WhatsApp de l'émission 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions pour commencer sur les raids de l'aviation française au Tchad. Ibrahima, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Merci, c'est ça.
On vous écoute.
Bon, c'est selon l'intervention française au Tchad.
Oui.
Parce qu'à la demande du gouvernement tchadien, l'aviation française a mené plusieurs raids pour disperser les hommes de l'UFR.
Oui.
Donc, j'avais des questions à ce sujet. Ma première question. Pourquoi l'armée française a-t-il accepté? Et puis quel danger représentaient les hommes de l'UFR?
L'UFR, l'Union des Forces de la Résistance, ce groupe rebelle qui tente depuis plusieurs années de renverser le président Idriss Déby. Roland Marchal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherches internationales, spécialiste du Tchad. Une série de frappes aériennes menées donc par l'aviation française entre dimanche et mercredi. Pourquoi l'armée française a-t-elle accepté de frapper ces rebelles?
Donc, de façon récurrente, la France gouvernementale soutient le président Idriss Déby. Aujourd'hui, les motivations exprimées par le gouvernement français sont les suivantes. Sans le contingent tchadien, la MINUSMA, donc la force des Nations Unies au Mali, serait sans doute beaucoup plus fragile qu'elle ne l'est déjà. Évidemment, l'armée tchadienne et ses supplétifs servent également beaucoup à informer, à agir dans le sud de la Libye où la France joue une carte difficile. Et enfin, il y a Boko Haram et le fait que l'armée tchadienne, de nouveau, et pas la population, sert à contenir ce groupe djihadiste qui acte à la frontière avec le Cameroun notamment et le Nigeria. Et
ouais. Mais l'opposition tchadienne dénonce l'ingérence de la France. Elle accuse la France, à travers notamment ses frappes, de soutenir un régime qu'elle qualifie d'illégitime. Ce sont des rebelles, ce ne sont pas des terroristes. La France est sur place, par le biais notamment de la force Barkhane, pour combattre des terroristes. Là, il s'agit de rebelles qui, certes, veulent déstabiliser le régime, mais on n'est pas sur la même, on va dire, sur le rebelle, terrorisme, ce n'est pas la même chose.
Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Du coup, le Premier ministre français a envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour spécifier que cette intervention se faisait non pas dans le cadre de Barkhane, mais dans le cadre de l'article 30 de la Constitution, alinéa 2. Et qui permet donc au gouvernement français d'engager des forces dans n'importe quel pays avec mes doigts en rencontre au Parlement. Et évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que la France est condamnée à intervenir au Tchad militairement et quelles sont les conditions d'existence de cette opposition armée? Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, le président Déby promet des améliorations en termes de droits politiques, de droits humains, de meilleure gouvernance économique, et pourquoi, depuis tant d'années, il échoue à améliorer la situation de son pays.
Ouais. Ibrahima nous demandait, et je vous demanderai de répondre en quelques mots, Roland Marchal, quel danger représentent ces hommes de l'Union des Forces de la Résistance?
Écoutez, d'un point de vue militaire, une colonne d'une quarantaine, on dit maintenant 50 véhicules, pas grand-chose pour le régime N'Djamena. Par contre, d'un point de vue symbolique, c'était important. Parce qu'il soulignait la survie et peut-être l'émergence d'une nouvelle rébellion armée dans des zones périphériques du Tchad, et donc du coup permettait le rassemblement de tous les mécontents, comme ça avait été le cas dans les années 2000. Et puis peut-être marginalement, il n'était pas impossible que cette colonne vise des lieux symboliques dans l'est du Tchad, qui évidemment aurait eu un impact médiatique très important.
L'analyse de Roland Marchal ce matin dans Appel sur l'actualité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Tchad. Ibrahima, bonne journée à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où il est 8h16. 33 9 693 693 70. Taïrou est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes au Mali, nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Oui, à l'occasion du discours sur l'état de l'Union, le président Trump a annoncé une rencontre prochaine avec le président nord-coréen qui se déroulera au Vietnam. J'ai deux questions à ce sujet. Mmh. Où en est réellement la dénucléarisation de la Corée du Nord? Que peut-on attendre de cette nouvelle rencontre entre les dirigeants américains et nord-coréens?
Oui, le président américain, le leader nord-coréen se retrouveront à la fin du mois, les 27 et 28 février, au Vietnam. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Spécialiste de la Corée du Nord, on vous doit de nombreux ouvrages. Je cite le dernier publié aux éditions Robert Laffont, « Le monde selon Kim Jong-un ». Donald Trump, on le voit bien, veut continuer les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. La question de Taïrou est pertinente. Depuis le mois de juin, depuis ce sommet historique de Singapour, où en est le programme nucléaire de Pyongyang? Est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes?
Oui, bien sûr, il y a eu des avancées concrètes. D'abord, la Corée du Nord a montré qu'elle a détruit plusieurs sites, mais c'est surtout dans l'atmosphère des relations et des tensions sur la péninsule qu'il y a de véritables avancées, puisque les deux Corées continuent à avancer dans leurs relations et dans leurs liens. Et puis, ce qui change beaucoup pour préparer cette nouvelle rencontre entre Kim et Trump, c'est l'envoyé de Washington à Pyongyang. Jusqu'ici, Pompeo et Bolton étaient finalement très rigides dans leur approche et presque, c'était utopique de penser que la Corée du Nord allait dénucléariser dans la seconde, d'autant que techniquement, ce n'est pas possible. Le nouvel envoyé qui s'appelle Stephen Biegun, qui était et qui est peut-être, je crois, encore à Pyongyang aujourd'hui, a une approche beaucoup, beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'il comprend que la Corée du Nord dénucléarisera, on a la volonté, mais qu'il faut que ce soit progressif, mais aussi qu'il y ait des contreparties, c'est-à-dire peut-être, et c'est ce qu'on peut attendre dans une certaine mesure aussi d'un tel sommet, peut-être un assouplissement des sanctions entre notamment, pour tout ce qui est économique, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et ce nouvel envoyé de Washington est véritablement une clé et opère un tournant dans la façon dont Washington aujourd'hui traite ses relations avec la Corée du Nord.
Je vous trouve bien optimiste, Juliette Morillo. On sait que la déclaration de Singapour était quand même assez floue. Tout le monde a salué évidemment la poignée de main entre Trump et Kim. Mais quand on lit, alors ce sont nos confrères de l'agence Reuters qui ont pu consulter un rapport confidentiel du comité de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, et on y lit « Les programmes balistiques et nucléaires de la Corée du Nord demeurent intacts ». Donc visiblement, rien ne change.
Il y a des choses, en effet, ça reste intact, mais ils ont commencé, il y a une volonté, mais ils veulent surtout, la Corée du Nord, derrière tout cela, demande ce qu'elle demande depuis des années, c'est-à-dire un assouplissement des sanctions, de façon à faire remonter son économie. Elle veut un minimum de contrepartie de la part des États-Unis, et c'est sur quoi Biegun a insisté lors de son discours à Stanford le 31 janvier dernier, donc il y a à peine quelques jours. Il a dit qu'il était temps que les États-Unis également fassent quelque chose en contrepartie. Mmh. Et puis, il y a une chose très importante pour ce sommet et qu'il ne faut pas exclure, ça pourrait être, et ça pourrait être très positif et enfin déclencher ce processus de dénucléarisation, ça pourrait être la signature de ce fameux traité de paix entre Corée du Nord et Corée du Sud, et on ne peut même pas exclure que peut-être les présidents sud-coréens Moon Jae-in et Xi Jinping pourraient rejoindre Kim et Trump à Danang. Ceci dit, encore un point important, on voit que c'est un nœud géopolitique. Trump, en rencontrant Kim au Vietnam, montre un petit peu à la Chine que lui aussi, il a sa position en Extrême-Orient, et c'est pour un petit peu asseoir sa position dans la région que le Vietnam a été choisi. Je crois que c'est important de le noter.
Effectivement, on rappelle les dates de ce sommet qui sera donc la deuxième rencontre entre Trump et Kim, les 27 et 28 février au Vietnam. Merci Juliette Morillo. Taïrou, on a répondu à vos questions?
Je suis entièrement satisfait et je tiens à faire une mention à toute votre équipe et à tous vos correspondants et autres experts qui interviennent dans cette émission.
Eh bien, merci de votre fidélité, de votre soutien. Bonne journée, bon week-end à vous, Taïrou. À bientôt, Juliette Morillo, 9h22 à Paris, 33 9 693 693 70. Frédéric Suto du service des sports nous a rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan.
Des questions sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et pas n'importe quel match.
C'est prochain.
C'est mardi prochain, le compte à rebours est lancé. C'est Patrick, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Port-Gentil au Gabon, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Exactement Juan. Le PSG a été battu la semaine dernière face à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il affrontera mardi 12 février une équipe de Manchester United imbattable depuis l'arrivée de son nouveau entraîneur. Peut-il avoir les conséquences au sein du PSG en l'absence de sa star Neymar, mardi 12.
Ah, mardi 12, effectivement. Frédéric Suto, faut-il s'inquiéter pour le PSG? Neymar est blessé, Patrick le disait à l'instant. Verratti est également blessé. Patrick faisait référence au match de dimanche face à l'Olympique Lyonnais. Quand on a, et pour ceux qui l'ont regardé mercredi, le match.
C'est ce que j'allais dire. On peut aussi parler du match de coupe, plus que poussif.
Poussif.
Face à Villefranche-sur-Saône, troisième division. Il a fallu aller en prolongation pour le PSG. Hein.
Bon, le PSG qui certes a gagné 3-0, mais enfin, c'est compliqué cette période en ce moment pour le Paris Saint-Germain.
Mais bien sûr qu'on peut s'inquiéter. Hein. Imaginez qu'arrivent les matchs couperets, huitième de finale, et que Barcelone soit privé de Léo Messi, Cristiano Ronaldo soit blessé à la Juve, Mo Salah ne soit pas là pour Liverpool. C'est ce qui arrive pour le Paris Saint-Germain. C'est la grosse tuile, l'énorme tuile. Hein. Neymar, souvenez-vous, déjà l'an passé, mais alors là, il avait joué le match aller à Madrid et il s'était blessé entre le match aller et le match retour des huitièmes de finale. Il n'avait pas pu participer au retour au Parc des Princes quand le Real était venu battre le PSG et donc c'était terminé pour la saison de Neymar et du PSG en Ligue des Champions. Et on craint effectivement qu'on nous reserve le même scénario. Les signaux, non, ne sont pas très bons. Là, on est au cœur de l'hiver. Il y a eu cette première défaite en championnat au bout de 20 matchs, vous le disiez. Et puis, on sent bien que sur le terrain, c'est surtout ça. En l'absence, on a le droit de perdre un match. Mais bien en l'absence sûr. De Neymar, les joueurs sont un peu déboussolés. Et pour la première fois, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand qui est arrivé cet été, eh bien, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment les solutions. Oui, vous avez Kylian Mbappé qui est devant, on lui lance des ballons, mais qui, au milieu, pour l'alimenter? Alors, il y a André Di Maria, l'Argentin. Vous le disiez, Marco Verratti, l'Italien, il s'est tordu la cheville il y a 3 semaines. Alors, il a réintégré le groupe, hein, Marco Verratti. On peut penser qu'il sera là mardi, mais là encore, le PSG va jouer gros, puisque il reprend tout juste. Mais le PSG a-t-il le choix? C'est le match de la saison, ce déplacement à Manchester.
Manchester, surtout que Manchester, on ne reconnaît plus cette équipe depuis que Mourinho ne l'entraîne plus. Hein.
C'était la question initiale de notre auditeur. Effectivement, Manchester métamorphosé, plus rien n'allait du côté de United avec José Mourinho, et il a suffi, qu'on vire l'entraîneur, l'arrivée du Norvégien Ole Gunnar Solskjær qui avait fait le bonheur de Manchester United à la fin des années 90. Et là, c'est comme si on avait libéré tous les joueurs, tout l'effectif. Ils en sont à 10 matchs. Sans défaite, 9 victoires, 1 match nul depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar et Solskjær, avec des visages qui sourient, qu'on n'avait pas vu depuis des mois. Le visage le plus caractéristique, c'est celui de Paul Pogba, le Français, des passes décisives, des buts, et puis une association avec Marcus Rashford, l'avant-centre qui fait vraiment merveille tous les week-ends. Manchester United, oui, à le vent en poupe. La veille du tirage au sort, on se disait ouais, Manchester, c'est une des équipes à prendre avec José Mourinho, rien ne va plus. Il y a eu le tirage au sort et le lendemain, José Mourinho limogé de Manchester. Et là, les choses ont commencé à changer. Oui, clairement, les courbes se sont inversées. Il va falloir un grand Paris Saint-Germain, que les joueurs se soudent pour vraiment faire face à cette équipe de United.
Et nous serons, j'imagine, très nombreux à suivre ce match. Patrick, vous avez un pronostic pour mardi soir ?
1-0 pour Paris.
1-0 pour Paris, donc victoire tout de même pour les Parisiens.
Ce serait vraiment une très belle opération avant le match retour au Parc des Princes, qui aura lieu, lui, le 6 mars.
Le 6 mars. Merci beaucoup. Merci Frédéric Souto, bonne journée Patrick. Merci de nous écouter au Gabon, à Port-Gentil. La dernière question de la semaine, tiens, on va parler archéologie. J'y vais, bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute.
Effectivement, Juan Gomez. Tout récemment, en Égypte, soit des 40 momies datant de plus de 2000 ans ont été découvertes dans le sang du pays. Un fait marquant qui a certainement suscité en moi des questions, dont celle de savoir comment cette tombe a pu être épargnée des pillages durant autant d'années et que nous apprend concrètement cette trouvaille.
Ah, des questions effectivement intéressantes. On va voir si cette découverte présente réellement un intérêt scientifique. Félix Relate Montserrat est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Louxor. Je vous présente tout de même. Vous êtes agrégé d'histoire, membre scientifique de l'Institut français archéologique oriental. Ces momies datent de l'époque de Cléopâtre, donc elles ont plus de 2000 ans. Notre auditeur a-t-il raison de s'interroger pourquoi et comment ces momies ont-elles été préservées des pillages ?
En effet, la question de l'auditeur porte sur les découvertes récentes réalisées sur un site en Moyenne-Égypte appelé Touna El Gebel, près de la ville actuelle de Minya. Il s'agit d'un tombeau familial avec, d'après le communiqué officiel, une quarantaine de momies qui ont été découvertes. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Touna El Gebel, c'est un site un peu particulier dans la mesure où il s'agit d'une grande nécropole, d'une ville importante de l'ancienne Égypte, l'ancienne Hermopolis. Donc, il n'est pas surprenant de trouver de nombreuses momies dans des nécropoles d'une telle taille qui ont été préservées essentiellement grâce à deux faits, la localisation du site en lisière du désert, et cette localisation explique que, en raison des conditions climatiques du désert, la conservation des corps ait pu être assurée. Okay. D'autre part, la localisation et la nature même du site de Touna El Gebel, en raison de la taille de ce site, explique aussi que les pilleurs n'aient pas pu explorer la totalité du site, parce que ce site était en partie ensablé, et donc les tombes ne sont pas spontanément visibles. On comprend bien que dans un site d'une taille comme ça, même si depuis longtemps on sait qu'il y a des tombes, on en connaît de très célèbres, comme la célèbre tombe de Pétosiris, qui est une tombe qui a une taille presque similaire à celle d'un temple, tellement elle est grande. D'autres tombes ont pu parfaitement échapper à la connaissance des fouilleurs.
Est-ce qu'on peut dire, excusez-moi, Félix Relate Montserrat, il nous reste une petite minute, est-ce que cette découverte est spectaculaire ?
Cette découverte n'est pas tant spectaculaire, mais elle est intéressante pour ce que elle peut nous apprendre sur la vie d'une famille de classe moyenne élevée de province à l'époque ptolémaïque.
Donc il y a 2000 ans.
Tout à fait. Donc entre 2300 et 2000 ans. Évidemment, il ne s'agit pas des momies les plus anciennes de l'ancienne Égypte. Hein. Pensez bien que l'époque ptolémaïque constitue la fin de l'époque pharaonique telle que nous la connaissons.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes en direct de Louxor. Félix Relate Montserrat, agrégé d'histoire. Bonne journée à vous. J'y vais. Bon week-end à l'écoute de RFI à Brazzaville. Reste avec nous à suivre le journal et on revient dans tout juste 10 minutes. Pour la Libre Antenne.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.